Frédéric Aubringer, bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous pourriez tenter de donner une définition du mot feng shui ?
Eh bien, le mot feng shui en chinois est composé de deux caractères. Le premier, feng, veut dire le vent, et le deuxième, shui, veut dire l'eau. Et c'est un rapport, disons, à ce que aujourd'hui en Occident on appelle l'énergie.
Comment fonctionne la cosmologie chinoise ?
Alors, vous me donnez combien, quelques heures ou quelques jours pour... ce qu'on peut dire rapidement sur la conception du monde dans la tradition chinoise qui s'est mise en place petit à petit pendant l'Antiquité chinoise, c'est que d'une part l'homme est placé entre le ciel et la terre, donc il y a une sorte de triade, que c'est une pensée qui fonctionne sur des correspondances, c'est-à-dire qu'il y a des éléments du corps, par exemple du corps humain, qui sont en correspondance avec des éléments de l'univers. Je donne un exemple très simple. Le foie, par exemple, à l'intérieur du corps, est en relation avec le bois, en relation avec le printemps, en relation avec la couleur verte, et puis on pourrait dire la même chose pour le cœur qui est en relation avec le feu et le rouge, etc. Mais vous voyez, il y a toute une circulation des éléments et de correspondance, d'interaction entre les divers éléments de l'univers.
C'est un peu une lecture globale du monde. Alors la démarche du feng shui consiste en premier lieu à trouver l'eau, en second lieu à retenir le vent, nous dit Gao Pu au IVe siècle avant Jésus-Christ. En quoi le vent et l'eau sont-ils si importants ?
Alors le vent, c'est l'expression, petit à petit, il y a une évolution probablement, le vent est devenu ce qu'on appelle en Occident l'énergie, le terme est qi en chinois, qu'on retrouve dans Qigong par exemple. C'est le principe vital en quelque sorte de l'univers. Et il y a des chi qui sont favorables, d'autres qui sont défavorables. Et il y a donc une relation entre ce vent, d'une certaine façon, ou ce chi qui constitue le monde, et tout l'art du maître feng shui, ce sera de déceler où se trouvent les bonnes énergies, en quelque sorte, c'est-à-dire où se trouve sinon le bon vent, mais le bon qi. Et l'eau va être, c'est un élément qui va ou capter ces énergies, ou au contraire les faire partir, en quelque sorte. Si vous voyez, ce sont des images très simples et très concrètes, en quelque sorte. Si la bonne énergie se trouve juste à côté de votre maison, mais qu'un fleuve l'entraîne continuellement, vous allez courir après votre bonne fortune, mais elle ne sera pas chez vous.
Est-ce qu'on pourrait dire que le feng shui est une philosophie du bonheur, un art de la divination ou un art de vivre ?
Alors le bonheur, c'est une notion très 18e siècle occident. Alors je ne sais pas si on pourrait traduire, si on pourrait trouver facilement un équivalent en chinois du terme bonheur.
Mais les Chinois, ils cherchent bien le bonheur aussi, ils aiment bien être heureux.
Je ne sais pas, ils aiment bien, oui, être riche, avoir, être puissant, avoir des... Voilà, alors peut-être que nous, aujourd'hui, on considère que c'est le bonheur, mais il y a beaucoup de définitions de la réussite dans le monde. Mais il y a des points communs un peu partout, quand même. Il est rare d'espérer être faible et en mauvaise santé. Le bonheur, je ne sais pas, la réussite et l'affirmation dans le monde, certainement. La divination, oui, à l'origine, ça c'est vraiment d'un point de vue historique, le feng shui, toutes les théories, les pratiques du feng shui sont nées dans un cadre de pensée divinatoire. Et vous me disiez le troisième.
Un art de vivre.
Un art de vivre. Oui, aussi, dans la mesure où c'est ce ça correspond à une attention continuelle au fait du quotidien, quoi, en quelque sorte.
Est-ce qu'il existe une dimension spirituelle au feng shui?
Ça, c'est une question piège parce que, évidemment, spirituel, c'est la même chose que le bonheur. Il n'y a pas la même distinction, par exemple, entre corps et esprit. Le sentiment religieux en Chine n'est pas le même que, bien sûr, qu'en Occident. D'un point de vue, le corps, par exemple, il n'y a pas de distinction très nette entre l'esprit et la matière. Hein. C'est vraiment une conception un peu différente. Mais le fait même que, par exemple, il puisse y avoir une influence des ancêtres, par exemple, sur sa propre vie, il faut que les ancêtres aient une tombe bien située pour qu'ils soient contents et qu'ils soient bien disposés envers vous. Eh bien, on peut dire qu'il y a, d'une certaine façon, quelque chose à voir avec la spiritualité.
Est-ce que le feng shui est un art taoïste?
Je vous dirais volontiers non, même parce que ce que je disais tout à l'heure pour ce qui est du sentiment religieux, ce qui est assez joli quand vous allez en Chine ou à Taïwan, enfin, c'est que vous pouvez voir un petit monsieur aller d'abord dans un temple taoïste, puis après dans un temple bouddhiste, tout ça, et ça ne le gêne pas. Ce qu'on ne fait pas exactement ici, entre un temple, enfin, protestant, une église ou une synagogue, c'est toujours la guerre, alors que c'est beaucoup plus souple quand même en Chine. Donc voilà ce que je voulais dire.
Moi, je voyais un rapport entre le feng shui et le taoïsme par rapport à la nature.
Alors, la nature, ça, c'est aussi une question. J'aurais un peu tendance à ne pas être tout à fait d'accord avec cette conception. Parce que le taoïsme, dire que, par exemple, le confucianisme ne s'intéresse pas du tout à la nature, c'est faux. Si. Et puis les Chinois, après tout, sont à la fois taoïstes, bouddhistes, confucianistes, etc. D'avoir une idée simple en disant, voyez, en imaginant le petit ermite perdu dans la nature, en communion avec la nature, bon, le taoïsme, c'est pas uniquement ça, mais qu'il y ait une attention aux choses de la nature, les médecins, les alchimistes et tout ça, et qui est quand même en général influencé par les écrits taoïstes.
Le culte des ancêtres est à la base de la société chinoise. Est-ce que c'est la clé pour comprendre le feng shui?
C'est pas la seule clé pour comprendre le feng shui, mais c'est difficile de faire l'impasse de ce culte des ancêtres. Ce que je disais tout à l'heure au sujet des tombes, parce que le feng shui, c'est à la fois trouver la bonne disposition pour une maison, là, c'était où les vivants habitent, ou la bonne disposition pour les tombes, là où les morts habitent, en quelque sorte. Et évidemment, pour ce qui est de l'influence, hein, de ce lieu, des morts sur les vivants. Également, on trouve dans chaque maison une sorte de, vous savez, des tablettes des ancêtres. Et le maître du feng shui, parfois, va demander de déplacer le lieu de ces tablettes pour essayer de réorganiser ce qu'on appelle ici, disons, l'énergie de la maison.
Est-ce que le Yi Qing a un rôle dans le feng shui?
Oui, il a un rôle, comme dans toute la pensée chinoise. Ne serait-ce que parce que sur la boussole qu'utilise le maître du feng shui, il y a certaines figures, les trigrammes, qui sont sur certains cercles concentriques et qui vont permettre. C'est une des données que va utiliser le maître du feng shui pour analyser la situation de la maison, par exemple.
Est-ce qu'on pourrait dire donc que les deux se nourrissent?
Bon, je ne sais pas si le feng shui a beaucoup nourri le yi-ting, mais inversement, oui, certainement. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que le yi-ting, le livre des mutations, hein, qui est un livre qui date de l'Antiquité chinoise, qui est un livre de divination aussi, vous voyez le titre, Livre des mutations, l'attention particulière, c'est au changement. Et évidemment, quand le maître du feng shui, il va essayer de changer une situation, de renverser une situation mauvaise ou de la rendre meilleure. Et là, il y a toute une attention aux mutations qui est vraiment qu'on trouve dans toute la tradition intellectuelle chinoise.
Quels sont les outils pour pratiquer le feng shui ?
Alors, les outils, ça dépend un peu. Je dirais volontiers que l'outil principal, c'est la parole du maître du feng shui. Ça, c'est le discours qu'il doit tenir, ça, c'est très important. Mais ça dépend aussi des écoles de feng shui, parce qu'il y a plusieurs écoles. Il y a une des écoles principales, c'est l'analyse du paysage, en quelque sorte. Alors là, il suffit de bien regarder, enfin, et d'avoir, finalement, dans ce cas-là, les outils, ce sont des outils intellectuels. Il y a aussi une école qui utilise cette fameuse boussole des géomanciens, donc est une sorte de disques sur lesquels se trouve un certain nombre de cercles, hein, enfin de lignes concentriques sur lesquelles sont inscrites ou justement ce qu'on évoquait tout à l'heure, des signes du yi-ting ou d'autres marqueurs du temps ou des orientations. Et en fonction de ça, de l'analyse de la situation en quelque sorte, le maître de feng shui va donner des instructions en fonction de ça.
Alors, il y a quelque chose qui est particulièrement chinois, ce sont les murs écrans. À quoi ils servent, ces murs ?
Oh, bah écoutez, les murs écrans, c'est très simple, il faut faire fuir les démons. Alors donc il faut faire, au fond, il faut éliminer les mauvaises influences. Voilà.
Vous pouvez expliquer comment ça se présente, un mur écran ?
Oui, vous pouvez. On en trouve même dans les jardins, dans les entrées dans toute cette architecture traditionnelle qui, bon, a un peu tendance à disparaître et à être complètement détruite en Chine aujourd'hui. Mais vous rentrez. Il faut un peu éviter les lignes droites. Parce que c'est plus facile pour vous, mais c'est aussi plus facile pour les démons. Donc si le démon, il est un peu bête en plus, il rentre et s'il se précipite contre une sorte de petit mur, eh bien, il continue pas. Il repart parce que c'est pas très agréable. Et puis vous faites vous tournez à gauche ou à droite et puis vous rentrez chez vous. Et comme ça, ça va bien.
Il y a une orientation spéciale de l'entrée.
Oui, en général, il y a l'entrée, c'est plutôt quand même dirigé vers le sud.
Il y a des passerelles entre le feng shui, la médecine traditionnelle chinoise et l'acupuncture.
L'acupuncture, donc, ça fait partie de la médecine traditionnelle. Oui, on dit souvent que le feng shui, c'est un peu la médecine de la terre. Et puis c'est fondé en gros sur les mêmes notions, je ne sais pas si c'est philosophique, mais au moins cosmologique.
Alors c'est un art très pratiqué aujourd'hui en Chine, même pour construire des gratte-ciel. Comment vous expliquez cette pérennité ?
Alors je crois qu'il faut comprendre ça si on arrive à en expliquer le rôle du feng shui dans la société chinoise. J'ai l'impression que, et c'est ce que m'ont dit des amis chinois, au fond, au début, quand on se rencontre, par exemple, même pour faire des affaires, ici on parle du temps et en Chine on parle du feng shui. C'est une façon aussi de lier connaissance, parce que c'est quelque chose qui est partagé par tout le monde. Et ça donne, au fond, pour même pour les architectes, pour des gratte-ciel, c'est ce qui donne, ce qu'on pourrait dire, un supplément d'âme.
Pourquoi le feng shui est-il à la mode aujourd'hui en Occident ?
Alors, je crois que il y a beaucoup d'explications possibles, beaucoup d'hypothèses, mais j'ai l'impression que la perte un peu des repères aussi bien religieux que philosophiques et puis un discours vraiment très technique ou technocratique concernant l'environnement, concernant l'urbanisme, concernant les maisons, a un peu désenchanté le monde, on pourrait dire, et que nous autres, pauvres petits occidentaux un peu perdus, eh bien, on essaye, dans le cadre de la globalisation, de saisir tout ce qui pourrait nous aider un peu à vivre mieux dans notre quotidien.
Voilà, le feng shui pour réenchanter le monde, c'est une bonne piste. Frédéric Aubringer, merci.